Bonsoir à toutes et à tous. Un commissariat littéralement pris d'assaut. Une quarantaine de personnes se sont attaquées samedi soir à un commissariat d'un quartier de Champigny-sur-Marne. Les policiers ont dû se réfugier à l'intérieur. Jean Castex promet que l'État sera intraitable face à ce qu'il considère être une attaque contre la République. La semaine dernière, deux policiers à Herblay ont été massacrés, pour reprendre l'expression, les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Pourquoi cette violence urbaine? Qui sont ces assaillants? Quelle réponse apporter sur le plan judiciaire, mais aussi sur le terrain? Faut-il plus de répression, plus de prévention? Comment réagit l'opinion face à ces scènes de guérillas urbaines à un moment où la population est de plus en plus sensible à ces questions de sécurité? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Violence, insécurité, Castex en première ligne ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Jeudy. Vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. À noter que, selon votre dernier baromètre IFOP, qui est intitulé « Le gouvernement Castex à la peine », tous les ministres sont en baisse. Sois-y Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Ivan Trippenbach, journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions régaliennes. Et enfin, Driss Aït Youssef, vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité et président de l'Institut Léonard de Vinci. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Bruno Jeudy, on commence avec ces images très fortes, très spectaculaires qu'on va voir. Évidemment, ce sont des mortiers d'artifice, donc c'est fait pour frapper l'opinion. Et ça marche, on a tous été saisis dimanche matin quand on s'est réveillé avec ces images.
Oui, ce sont des images incroyables, très inquiétantes. Et pour les Français qui regardent ça, c'est dans quel pays on vit où une quarantaine de jeunes types peuvent attaquer un commissariat à coups de mortier d'artifice. Et si c'est sans doute une des premières aussi spectaculaires, hein, l'attaque de commissariat, ce n'est pas une première justement. Cet été, il y a déjà eu des commissariats qui ont été visés dans les Yvelines, mais là, ça prend des proportions très importantes parce que d'abord, les policiers se sont trouvés enfermés dans leur commissariat. Ils se sont littéralement réfugiés, attaqués par 40 jeunes qui y allaient au mortier d'édifice. Donc les images frappent. Ça donne l'impression que la rue est tenue par les voyous et non plus par la police. Et ça, c'est grave pour le gouvernement qui, là, cette fois-ci, qui cet été encore, par la voix de son ministre de la Justice, devisait sur le sentiment d'insécurité. Cette fois-ci, c'est, s'il devait encore avoir une discussion, c'est sur le sentiment d'impunité. Parce que pour les Français, ce sont évidemment des images impossibles qu'on voyait peut-être dans le Bronx, à New York, dans les années 80-90, mais qui maintenant sont aux portes de Paris. Et surtout, ce n'est pas la première fois. Alors, dans cette proportion-là, non, mais cet été, il y a eu des commissariats des Yvelines qui ont déjà été attaqués. Il y a eu un cirque à Chanteloup. Et encore, il y a quelques semaines, c'était dans les rues de Paris, dans le 19e, où il y avait les mêmes scènes de mortiers d'artifice avec des gens apeurés chez eux qui filmaient la scène. Donc, effectivement, pour le gouvernement, c'est un véritable défi. On a vu le ministre de l'Intérieur qui fait ce qu'il peut et qui se rend sur place tout de suite, choisit les grands mots. Je ne suis pas sûr que ça impressionne beaucoup les caïds qu'il a pointé du doigt. Les syndicats de police seront reçus par le président de la République jeudi, donc preuve que c'est quand même, cette fois-ci, il y a un peu de panique dans les rangs du gouvernement. Et le Premier ministre a parlé d'une situation où il serait intraitable. Mais je crains que en termes d'opinion, la partie soit perdue. Et on a vu, on en parlera sans doute, les oppositions s'engouffrer dans la brèche, avec cette fois-ci des propositions quand même, notamment de la part de Frédéric Pechenard, qui sont très précises et qui vont sans doute faire débat au-delà de la surenchère des mots habituels.
Oui, Frédéric Pechenard, on peut déjà le dire, on va le commenter, bien sûr, qui a dit que la police ne peut pas ne pas réagir. Driss Aït Youssef, d'abord, c'est quoi ces mortiers d'artifice qu'on vient de voir? Est-ce que c'est nouveau?
Non, ce n'est pas nouveau. On voit depuis maintenant quelques mois, comme l'a dit Bruno Jeudy il y a quelques instants, sur les réseaux sociaux, des patrouilles, des équipages, des patrouilles de police être pris dans un guet-apens avec justement des feux d'artifice, des mortiers. La particularité, c'est que c'est utilisé généralement pour des moments festifs. C'est extrêmement dangereux parce que vous avez de la poudre à l'intérieur et vous envoyez effectivement des boules de feu. Donc c'est extrêmement dangereux. Là, ce qu'on constate dans ces images, c'est qu'il y a un double effet. Le premier, c'est de vouloir faire très mal, parce qu'avec un mortier d'artifice, lorsque on a déjà eu des policiers blessés, des gendarmes blessés, et donc y compris des règlements de compte entre bandes rivales, utilisent des feux d'artifice et des mortiers. L'autre, on est plutôt dans j'ai envie de dire, la politique, on est dans quelque chose, on fait un feu d'artifice pour la population. C'est-à-dire qu'on envoie aussi un message, on voit bien qu'il y a des feux d'artifice qui ne peuvent pas atteindre les policiers ni le commissariat, mais c'est aussi pour faire le spectacle, pour montrer aussi à la population du quartier qu'on reprend pied sur le territoire et qu'on fait sauter un commissariat et qu'on le fait exploser. C'est un peu ça, vous avez une dimension faire mal et l'autre dimension un peu politique, un peu spectacle. Et donc c'est en cela que c'est dangereux.
Ivan Trippenbach, à ces images s'ajoutent des statistiques qui ne sont pas bonnes. Coups et blessures sur un an, plus 8%. Homicides, plus 9%. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. La semaine dernière, à Herblay, je cite le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, deux policiers ont été massacrés. Bah, tout ça, c'est quand même c'est un vrai problème, le régalien, comme on dit, pour ce gouvernement-là.
Exactement, c'est le signe que le régalien est un problème pour le gouvernement et que le gouvernement essaie de s'en saisir. On a d'abord les chiffres qui se dégradent depuis 2 ans. Christophe Castaner avait été très critiqué déjà à l'époque pour les chiffres de la délinquance, la hausse des homicides. On a les chiffres aussi des agressions envers les policiers qui sont en augmentation depuis quelques années. Et puis, le poids des images. On peut faire une comparaison, par exemple, avec l'agression de Viry Châtillon en 2016 contre des policiers qui avaient été attaqués au cocktail Molotov, donc dans l'Essonne, et qui étaient sortis brûlés de leur voiture. Il y avait des images très frappantes. Et c'est à partir de là que François Hollande a décidé de réunir tous les syndicats de police à l'Élysée. C'était une première. Emmanuel Macron va faire la même chose jeudi. C'est une première dans le quinquennat. Donc c'est effectivement le signe que le président prend le sujet très au sérieux. Et puis, troisième élément, on a évidemment l'offensive des élus de droite et d'extrême droite qui jouent beaucoup. Il s'était un petit peu tu la semaine dernière après le discours d'Emmanuel Macron sur la menace séparatiste, sur l'islamisme, parce que ce discours avait été jugé assez ferme, en fait, à droite de l'échiquier électoral. Là, on entend de nouveau, depuis ce week-end, les élus de droite qui vont jusqu'à demander d'ouvrir le feu, par exemple, dans les banlieues, quand on est face à de telles agressions.
Alors on va revenir sur cette proposition de la droite. Soizic Kemener, ben justement, est-ce que Jean Castex, alors ce matin, il s'est exprimé, il a commencé par ça sur France Info, il a parlé d'une attaque contre la République, donc c'est l'État et la République qui sont pris pour cible, il a dit que l'État, que le gouvernement sera intraitable. Est-ce que, ben, derrière son côté un peu bonhomme, finalement, il apparaît comme l'homme de la situation qui sera capable de ramener la paix républicaine dans tous les quartiers, sur tout le territoire?
En tout cas, c'est un sujet sur lequel il essaie d'être très présent depuis les 101 jours qu'il passe à Matignon. C'est-à-dire que c'est, souvenez-vous, l'interview du président de la République le 14 juillet. Alors la question ne lui a pas été posée, mais il n'en a pas non plus parlé de la sécurité. Le lendemain, lors de son discours de politique générale devant les députés, Jean Castex évoque le problème de la sécurité de façon très nette. Ce que disent les membres du gouvernement, c'est Jean Castex, il est là, pourquoi? Pour être en négatif, mais au sens photographique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire combler les creux. Là où Emmanuel Macron n'est pas présent, Jean Castex devrait être présent. Donc il s'est démultiplié sur les questions de sécurité depuis quelque temps. Il a fait des déplacements cet été. On l'a vu à Toulouse, on l'a vu la semaine dernière, on l'a vu à Dijon cet été. N'empêche que pour l'instant, et ça rend d'autant plus cruel, l'absence de résultats est ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet que Jean Castex a laissé de côté depuis son arrivée à Matignon, mais c'est un sujet sur lequel il patine. On voit qu'il y a une difficulté à avoir une réponse, parce que tout simplement, la réponse, ce sera certainement une réponse de long terme. Il n'a que 18 mois. Il était là et il cherche à avoir un ministre de l'Intérieur qui soit dans une réassurance, une façon d'afficher. On est de droite, on tient ce côté. Et puis le problème, c'est que tous les événements qui sont arrivés cet été, on pourrait lister les affrontements à Dijon, le chauffeur de bus à Bayonne. Il y a eu toute une série de faits divers, parfois
il
très graves.
Orange mécanique, pour voilà, reprendre l'expression d'Abbé Bertrand.
Et donc, ils se retrouvent dans leur propre piège, quelque part. C'est-à-dire que là, il faut du résultat très vite. Et la parole, le ministère de la parole ne suffira pas. Et puis, vous parliez à l'instant d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron reprend les choses en main, alors que c'était un sujet, normalement, qui était géré depuis Matignon.
Drissa Itiousef, alors, on ne voudrait pas non plus présenter l'image d'une France à feu et à sang. On sait très bien qu'on fait dire un peu aux statistiques un peu ce qu'on veut. Est-ce que si on dézoome, si on prend du recul sur ces chiffres, est-ce que oui, il y a quand même, alors non pas un ensauvagement, mais de plus en plus d'attaques, d'homicides, etc., sur une période un peu plus longue, sur 10 ans, et l'été, et autre question subsidiaire, l'été orange mécanique, pour reprendre cette expression, est-ce qu'il ne vient pas après une période de confinement où forcément les statistiques et les homicides et les attaques étaient confinés, j'allais dire, en baisse. Ah,
sur les statistiques, vous avez trois types de statistiques. Vous avez l'enquête de victimation, l'État 4001, qui est un outil des policiers et des gendarmes pour mesurer un peu leur activité, et puis ensuite les décisions de justice. On peut prendre un peu les statistiques qu'on veut, on leur fera un peu dire un peu ce qu'on veut. L'enquête la plus, j'ai envie de dire, la plus parlante, c'est l'enquête de victimation. Vous prenez un échantillon représentatif de la population et vous leur dites, bon voilà, est-ce que vous avez été victime ou non d'agression, etc. Et c'est pour moi l'enquête la plus, c'est celle qui parle le plus. Et là, effectivement, on s'aperçoit que il y a quand même une montée quand même assez importante de la délinquance. Vous avez rappelé des chiffres, notamment sur des homicides, sur des meurtres, des vols avec violence. Et on est sur des, y compris des agressions sexuelles, on est quand même sur une hausse qui est problématique et importante.
Et la France se distingue en Europe ? On est plus mal classé que nos voisins européens ?
Alors, on n'a pas tous les mêmes outils statistiques, ouais. Mais effectivement, on connaît en France, effectivement, une montée extrêmement inquiétante. Après, il faut pouvoir analyser cette montée, ou en tout cas la relier à une cause, parce que ce sont des conséquences. Et la cause, c'est effectivement, est-ce qu'on a des territoires qui, à un moment donné, ne sont plus contrôlés ? Là, on analyse un peu mal la situation, c'est par exemple quand on prend le cas de Champigny-sur-Marne. Champigny-sur-Marne, ce quartier du Bois-l'Abbé, c'est un quartier qui a été désigné quartier de reconquête républicaine. Il y en a 48 en France, je crois depuis 2018, et donc il y a des renforts d'effectifs de police qui déstabilisent d'une certaine manière le trafic de stupéfiants dans ce territoire et qui, me semble-t-il, avec une course-poursuite il y a quelques jours d'un individu avec une moto qui est tombé, qui s'est fracturé le fémur. Donc on voit bien que ce sont des individus qui n'acceptent pas que la République reprenne pied sur son territoire et donc ils vont engager des mesures qu'ils considèrent d'un peu de rétorsion ou de vengeance ou de représailles contre la puissance publique. C'est aussi ça qu'il faut analyser. Alors, on dit qu'effectivement le commissariat est attaqué. Est-ce que c'est un échec ? Je n'irai pas le dire jusqu'à comme ça, mais on a des individus qui effectivement veulent reprendre pied sur le territoire qui n'est plus le leur. Et le politique aujourd'hui doit pouvoir analyser tout ça et ensuite en sortir évidemment des réponses appropriées. Plus de présence, déstabiliser encore plus le trafic, faire jouer un peu la justice et surtout travailler encore plus avec les collectivités. Parce que quand vous regardez la configuration de ce territoire, vous avez un commissariat au centre d'un certain nombre de quartiers et 8000 logements autour. Et donc, on est dans un territoire qui est un territoire difficile autour. Donc, il faut aussi se poser aussi les questions de l'aménagement urbain. Donc, c'est tout ça qu'il faut savoir aussi apprécier au moment où nos policiers sont attaqués sur un certain nombre de territoires de la République.
Eh bien justement, on va voir les images donc, au cœur de ce quartier difficile de Champigny-sur-Marne. Pour certains élus, il s'agit donc d'un acte de guerre. L'attaque au mortier d'un commissariat de Champigny-sur-Marne samedi dernier a choqué la classe politique comme les habitants de la ville. Mais ce sont les premières victimes, les policiers qui tirent la sonnette d'alarme, des forces de l'ordre visées par plusieurs agressions très violentes depuis plusieurs semaines. Cet après-midi, ils ont manifesté leur colère et demandé des mesures de protection au gouvernement. Vous voyez ce sujet de Juliette Perrault avec Pierre Millet et Diane Cacciarella.
Ça fait des années. Ça fait des années que ce commissariat il est attaqué. Ça fait des années que nos collègues subissent des jets de pierre quand ils patrouillent.
De la lassitude et de la colère ce matin devant le commissariat de Champigny-sur-Marne. Des dizaines de policiers rassemblés pour dénoncer un climat de violence de plus en plus pesant. Parmi eux, ce fonctionnaire qui témoigne de façon anonyme.
C'est devenu une délinquance quotidienne, cette violence qui vient de partout, mais essentiellement effectivement des quartiers. Elle est montée en puissance et je pense qu'on n'arrive pas à l'endiguer parce que derrière, il faudrait vraiment une volonté puissante de s'attaquer à une minorité aujourd'hui qui pose problème.
Un ras-le-bol général, deux jours après l'attaque contre le commissariat de Champigny. Il est presque minuit dans la nuit de samedi à dimanche lorsque le bâtiment est visé par des tirs de mortier d'artifice. À l'origine de l'attaque, une quarantaine d'individus cagoulés. Sur ces images amateurs, en bas à gauche, on peut voir plusieurs d'entre eux tirer juste sous les fenêtres des immeubles. Certains, armés de barres de fer, ont même tenté de pénétrer dans le commissariat, en vain. Bilan, aucun blessé, mais des dégradations matérielles sur le bâtiment et sur plusieurs véhicules de police. Des actes condamnés par le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu sur place hier.
Il y a une guerre de territoire sur le sol de la République. Et parce que nous sommes en reconquête, parce que nous imposons la présence de la police partout et en tout lieu, qui doit notamment lutter contre les trafics de stupéfiants, qui doit faire son travail, il y a des gens coordonnés, des caïds, des voyous qui essayent d'impressionner la République. Et je suis venu vous dire ce soir, je suis venu dire à tous ceux qui essayent de tester la République qu'ils ne gagneront pas.
Même discours de fermeté de la part du Premier ministre ce matin. Jean Castex l'assure, malgré l'urgence de la crise sanitaire, l'insécurité demeure une priorité du gouvernement.
Nous allons, dans ce quinquennat, avoir recruté 10 000 policiers supplémentaires. Ça n'était pas arrivé depuis des décennies. Et effectivement, nous allons renforcer, grâce à ces moyens, la lutte notamment contre les trafics. Je pense que dans ce qui se passe à Champigny ou ailleurs, il y a le fait qu'on dérange tous ces trafics par les moyens que nous employons. Cela ne leur plaît pas. Ils réagissent, mais ils auront affaire à nous. On ne se laissera pas faire.
Un Premier ministre qui durcit le ton face à des agressions contre les forces de l'ordre qui se multiplient. La semaine dernière, deux fonctionnaires de police ont été blessés par balle à Herblay dans le Val-d'Oise par trois individus qui se sont emparés de leurs armes de service. Un contexte qui fait réagir l'opposition.
Aujourd'hui, on ne doit pas pouvoir venir casser du flic dans la République. Et donc j'appelle le ministère de l'Intérieur, j'appelle le ministère de la Justice à des sanctions exemplaires et à nous apporter aussi temporairement les renforts d'effectifs nécessaires.
La solution, elle existe et elle doit passer par un tour de vis absolument considérable sur la criminalité. Il faut renforcer le renseignement territorial, il faut donner des instructions aux procureurs pour poursuivre systématiquement, il faut que les peines qui sont prononcées soient des peines extrêmement fermes.
Jeudi, Emmanuel Macron recevra l'ensemble des organisations syndicales de policiers. Parmi leurs revendications, une revalorisation des primes, plus de matériel et une réponse pénale systématique en cas d'agression.
Alors, question téléspectateur de Didier, en l'occurrence, dans l'Isère. Comment expliquer cette montée de violence gratuite contre nos policiers depuis quelques années ? Driss Aït Youssef, c'est le syndicat de police Alliance qui parle, je le cite, d'une haine anti-flic. Et surtout, ajoute le syndicat, maintenant, ils viennent pour tuer.
Oui, c'est aujourd'hui l'état d'esprit d'un certain nombre de ces individus. Il faut comprendre qu'on a basculé d'une génération qui est une génération où un certain nombre d'individus étaient des délinquants, mais qui fuyaient la police. Aujourd'hui, on ne la fuit plus, mais on la combat. C'est pour ça que quand on regarde ce qui s'est passé à Herblay la semaine dernière, où on a des policiers qui ont été sortis de leur véhicule, armes de service confisquées, on leur a tiré dessus. Aujourd'hui, on a quand même une génération, moi que je situe dans la génération des années 1990, qui arrive pour un certain nombre d'entre eux sur le marché de la délinquance et qui sont complètement, non pas désocialisés, mais totalement déstructurés, décérébrés, où la violence est leur langage quotidien. Ils sont dans des rapports de force quotidiens, que ce soit en prison ou dans le quartier, le rapport de force, il est quotidien. La police n'est qu'à un moment donné l'outil de la puissance publique qui vient rappeler des règles, les règles de la vie en communauté, les règles de respect des lois. Et ça, manifestement, ça ne leur plaît pas. Donc quand vous avez des policiers qui se réapproprient des territoires, évidemment, ça provoque des réactions. Vous l'avez rappelé tout à l'heure très justement, lorsqu'on a des policiers en octobre 2016 qui surveillent une caméra de vidéoprotection, qui empêchent un certain nombre d'individus de commettre des violences, notamment des vols à la portière, etc., et ben vous avez des individus qui considèrent que c'est dans leur territoire qu'ils ne peuvent plus travailler et ils vont jeter un cocktail Molotov sur ces policiers précisément pour les brûler.
Donc aujourd'hui, cette violence désinhibée, elle vient de quel univers, de quel imaginaire, elle renvoie
c'est,
à quoi
c'est quand vous avez sur un certain nombre de ces individus qui sont en décrochage scolaire depuis de nombreuses années où leur quotidien, c'est le jeu vidéo, et c'est Netflix, et quand vous regardez sur ces plateformes de streaming, vous avez El Chapo, Narco, et tout un certain nombre de séries extrêmement violentes, où c'est la violence du quotidien, et ben vous avez une forme de mimétisme. Quand vous regardez les règlements de compte dans un certain nombre de territoires sur fond de trafic de stupéfiants, vous avez des règlements de compte qui sont de plus en plus violents, extrêmement violents, où on n'est plus là juste pour assassiner, on est là pour marquer, on est là pour envoyer un message à la bande, aux concurrents, à la bande rivale. Donc aujourd'hui, vous avez une génération, on verra ce que donnera l'autre génération des années 2000, mais en tout cas sur la génération 90, y compris de ce que dit l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterrorisme qui cible aujourd'hui le terroriste, l'âge moyen du terroriste 26 ou 27 ans, c'est dans cette génération et vous avez une génération qui est extrêmement violente.
Bruno Jeudy, quand Frédéric Pechenard, donc l'ancien directeur général de la police nationale qui est maintenant élu les Républicains, dit « la police ne peut pas riposter », il ajoute « les policiers sont soumis à tout un tas de contraintes juridiques, administratives, qui font qu'à aucun moment, ils ne peuvent sortir leurs armes. Il appelle à quoi ? Ça veut dire quoi, alors, d'abord ?
D'abord, il appelle à une réflexion autour de la riposte.
La police ne peut pas ne pas riposter, pardon, je l'ai mal cité.
Voilà, il appelle à une réflexion sur la riposte. Il met, en gros, sur la place publique, un tabou. En France, il y a des règles extrêmement précises pour un policier, pour pouvoir faire usage de son arme. Vous l'avez dit, lui, il parle de contraintes administratives et juridiques, mais ça fait partie de ce qu'apprennent les policiers lors de leur formation. Là, il se sert de ce qui s'est passé au Bois-l'Abbé ce week-end, où les policiers ont été attaqués, littéralement assiégés par 40 jeunes qui viennent avec du mortier d'artifice dont ils se servent comme une arme par destination. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez, normalement, c'est des tubes, on met de la poudre dedans et ça part en l'air, quand c'est les artifices qui l'utilisent. Eux, ils le prennent et ils s'en servent comme d'une arme, c'est-à-dire qu'ils tirent. Un peu comme, finalement, une sorte de LBD, sauf que c'est des boules de feu, comme l'a expliqué Driss. Pour Frédéric Pechenard, la question de la riposte se pose parce que, finalement, ils sont attaqués par des gens armés qui font feu sur eux. C'est en gros, si on suit son raisonnement, c'est ça. Donc, il met sur la table quelque chose qui, aujourd'hui, est tabou. Est-ce que, je pense que, c'est pour ça que je dis qu'on dépasse l'habituelle surenchère verbale qu'il y a, hélas, depuis quelques mois, parce que des faits divers comme ça, il y en a eu beaucoup, où on voit les oppositions réagissent, elles savent que Emmanuel Macron, c'est son point faible, la sécurité, l'opposition, et notamment la droite, a bien du mal à trouver des angles dans le bilan d'Emmanuel Macron. Sur le terrain économique, actuellement, il n'y a pas lieu de beaucoup discuter autour du plan de relance, et donc c'est la sécurité. Effectivement, les chiffres sont mauvais, et du coup, il pose sur la table une proposition qui forcément va faire débat, qui est une sorte de tabou, et qui reviendrait à discuter des conditions pour un policier de faire usage de son arme. En tous les cas, Frédéric Pechenard, pour les Républicains, engage ce débat et on va voir comment vont se positionner Jean Castex et Gérald Darmanin.
Ivan Trippenbach, quand Valérie Pécresse dit ces scènes de guerre sont intolérables, donc elle fait référence à des scènes de guerre, et c'est vrai que ces images, quand on voit les policiers se réfugier à l'intérieur comme dans un bunker, ça renvoie l'image finalement d'une république ou d'autorité totalement impuissante face à ces scènes, face aux assaillants.
Oui, en fait, ça valide totalement la thèse des territoires perdus de la République, pour aller vite. Donc, on est au plan symbolique, au plan de l'image, on est complètement dans l'illustration de ce que dénonce la droite, l'extrême droite, depuis des années. Le fait que Frédéric Pechenard parle lui-même de réflexion sur l'usage des armes à feu, c'est très parlant, parce que c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien patron de la police nationale. C'est effectivement pas anodin de rouvrir cette réflexion-là. On peut quand même ajouter que heureusement que l'usage des armes est encadré pour la police, très encadré même, dans les cas de légitime défense. Il y a une sorte d'équilibre aussi qui s'opère avec les armes non létales. On a parlé du LBD, on est l'un des seuls pays en Europe à avoir une telle réglementation pour l'usage du LBD qui permet justement, en principe, d'éloigner des assaillants ou d'intervenir dans une manifestation qui tourne mal. Donc, il y a quand même un équilibre dans le droit français en matière d'usage des armes pour la police qui est plutôt louable. Toute réflexion...
Plutôt louable, parce que sinon, ça se termine en fusillade, quoi, de part et d'autre. Bah, à l'escalade, oui, répond l'escalade.
Bien sûr, on peut.
En face, ça ne sera plus des mortiers d'artifice, ce seront
Ça renvoie aussi à ce que disait Ségolène Royal il y a quelques années, qui voulait, elle, faire appel à l'armée dans ses quartiers.
Hein. Oui, Éric Ciotti le fait aussi récemment. Mais on peut s'interroger sur la responsabilité des élus de la République quand ils appellent effectivement à ouvrir le feu sur les jeunes,
même si
ce sont des délinquants. Voilà.
Marine Le Pen a dit qu'il fallait réarmer moralement. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les têtes, les policiers aussi, on les a désarmés. Comment vous analysez cette phrase ? Je ne sais pas qui veut la commenter.
Je pense qu'il y a deux choses, il y a deux défis devant le gouvernement. Il y a à la fois comment protéger les policiers, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin hier quand il s'est déplacé à Champigny-sur-Marne. Alors, on note que sur la question de la réponse, Jean Castex a été interrogé ce matin par nos confrères de France Info. Il a vraiment éludé la question. Il n'a pas du tout répondu sur la légitime défense. Et l'autre question qui se pose, enfin la légitime défense ou pas d'ailleurs, et l'autre question qui se pose aussi, c'est comment remettre la politique, remettre la République, pardon, au cœur de ses quartiers. C'est évidemment, c'était déjà le sujet de la campagne présidentielle de 2017, les territoires fracturés. On ne parle que de ça tous les jours en politique. Ce sera un des thèmes de la campagne présidentielle de 2022. C'est bien pour ça que Marine Le Pen commence déjà sur ce thème qui croise à la fois les questions d'insécurité, les questions de séparatisme aussi. Donc ça fait un mélange de tous les thèmes qu'elle veut porter pour la présidentielle. Elle a bien repéré, elle aussi, que c'était peut-être un angle de passage pour elle, qu'elle pouvait être entendue sur ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'elle réagit à chaque fait divers de plus en plus fort. Alors, elle n'est pas sur la même ligne que Frédéric Pechenard, mais c'est vrai que Frédéric Pechenard, on écoute attentivement ce qu'il dit pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui. Et surtout, souvent, il est en adéquation avec les policiers. Il continue à parler énormément avec les syndicats, avec les policiers. Il a des retours de terrain. Donc, si lui dit ça à ce moment-là, c'est que ce n'est pas anodin, c'est qu'il l'entend beaucoup de la part de policiers.
Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Et dans le même temps, on voit bien qu'un certain nombre de politiques font semblant de ne pas comprendre ou de ne pas savoir, à tel point de faire de la démagogie. Parce que sur l'utilisation d'une arme à feu, il y a deux dispositions au travers desquelles le policier peut faire l'usage de son arme à feu. Soit lorsqu'il est en état de légitime défense, avec les trois critères, dont deux, notamment sur la proportionnalité et la concomitance, et un autre qui a été voté dans le prolongement des attentats de novembre 2015, sur ce qu'on appelle l'état de nécessité voté au travers de la loi de février 2017, qui permet aux policiers de faire usage de son arme à feu, même s'il n'est pas menacé, c'est le péril imminent. Là encore, quand le policier utilise son arme à feu, c'est pas le politique qui en prend la responsabilité, mais c'est le policier ou le gendarme lui-même. Et il est sous le contrôle de l'autorité judiciaire qui, à un moment donné, va diligenter une enquête et qui va mettre en examen le policier ou le gendarme s'il considère qu'en utilisant son arme à feu, eh ben, il n'a pas été en état de nécessité, qu'il n'a pas fait état de son arme dans le cadre de la légitime défense. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'on a quand même quelquefois des politiques qui disent bah, il faut pouvoir utiliser son arme à feu, mais les policiers, on leur apprend à l'école, donc ils font extrêmement attention.
Et c'est pour ça que, de leur acte aussi.
Et c'est pour ça que j'ai considéré que leur position était extrêmement courageuse de rentrer ce calfeutré au commissariat, parce qu'ils sont extrêmement bien équipés. Ils ont aujourd'hui des fusils mitrailleurs de type G36, ils ont des armes de poing, et donc ils auraient pu évidemment faire usage de leur arme à feu.
Dès lors qu'ils s'en sortaient eux-mêmes mortellement.
Absolument. Et ils ont extrêmement bien réagi en se mettant effectivement dans ce commissariat à l'abri. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de blessés, et je trouve que c'est très bien.
Alors la réponse, elle peut aussi être pénal. Bruno Jeudy, que pensez-vous de Bruno Retailleau qui, ce matin, dit qu'il faut un régime juridique d'exception pour ces quartiers devenus incontrôlables. Ça veut dire que là aussi, on devrait sortir du droit commun en matière juridique pour punir ces assaillants.
Bruno Retailleau, sur plusieurs secteurs comme ça, estime qu'il faut sortir un certain nombre de sujets comme ça du cadre normal et en faire une exception. Il le fait là pour notamment ces quartiers. Alors après, la notion d'exception, à mon avis, peut les emmener très très loin et peut être une pente dangereuse. Mais on voit bien que, à la fois parce que la droite ne peut plus se contenter de la surenchère verbale, se lance dans des propositions qui vont faire débat, qui vont choquer, qui vont, à mon avis, lancer prématurément la présidentielle sur le sujet de la sécurité. Et on voit bien que le sujet de la sécurité va être l'un des terrains de bataille de la prochaine échéance politique, où Emmanuel Macron, qui au fond est d'abord un président qui n'est pas rassurant sur les questions de sécurité. Je pense que c'est sa difficulté. Ouais. Et ses opposants voient bien que là, il y a matière à le mettre en difficulté. Alors, il a essayé il a conscience de ça. Il s'est armé, cette fois-ci, dans son remaniement, en mettant à Matignon Jean Castex, qui était pressenti pour être lui-même ministre de l'Intérieur, et en nommant à l'Intérieur, à la place de Christophe Castaner, qui avait échoué, nommé Gérald Darmanin, un homme de Nicolas Sarkozy.
Il a le verbe. Il a dit ce matin, les petits caïds n'impressionnent personne.
Oui, qui a le verbe. Tout l'été, s'est servi du verbe, mais on voit bien qu'à la fin de l'été, bah, ça ne suffit pas. Il est un peu en mode répétitif, et même s'il a le soutien, parce qu'il arrive et qu'il a le soutien, on le sent, des syndicats de police, il risque de s'user assez vite sur ce terrain-là, parce que les mots ne suffiront pas.
Alors c'est un jeu dangereux qui exaspère les riverains, les rodéos urbains. une pratique de plus en plus répandue dans certains quartiers et face à laquelle élus et policiers sont plutôt démunis. Une équipe de C'est dans l'air s'est rendue dans les quartiers nord de Marseille à la rencontre d'habitants particulièrement excédés. Voyez ce reportage de Julien Launay et Diane Cacciarella.
Ils paradent sur leurs engins, seuls ou en groupe. Et ils en font même des vidéos diffusées sur Internet. Cet enchaînement de voltige, plein gaz, sans respect du code de la route, a un nom, le rodéo urbain. Dans les quartiers nord de Marseille, cette pratique illégale pousse à bout certains habitants comme Nathalie Lafont, excédée par le bruit, au point de ne plus pouvoir profiter de son jardin.
Il y a de ça 2 ans, j'ai effectivement envisagé de partir, hein, parce que je ne voyais pas de solution à mon problème. J'ai mis en place aussi des escapades le week-end pour ne plus être confrontée à ça, pour avoir quelques jours de répit. J'ai parfois le soir tendance à rester plus longtemps au bureau pour éviter d'être confrontée à ça. Enfin voilà, ça affecte vraiment mon quotidien.
Nathalie Lafont dit appeler régulièrement le 17. Elle qui se bat depuis 2012 contre le rodéo urbain, mais qui vient seulement d'obtenir une première victoire. Avec son collectif, elle a fait condamner l'État pour son inaction, une première.
Dans un pays, ce n'est pas du tout un fonctionnement normal. Ça veut dire que quelque part, il y a eu en préalable un abandon de l'État. Ça veut dire aussi que depuis que les signalements ont été faits, il n'y a pas que moi, en 2012, qui ai commencé à signaler les problèmes de rodéo moto. Hein. On trouve des traces de partout, des tas d'élus ont saisi tous les ministres de l'Intérieur successifs sur cette thématique. Et à chaque fois, ils ont promis de s'en occuper, mais ils ne s'en sont pas occupés parce que pour eux, c'était peut-être annexe.
La décision rendue cet été par le tribunal administratif de Marseille est à ses yeux surtout symbolique. Elle ne résout pas le problème. De son côté, la police met en avant un chiffre. Près de 70 motocross ou quads saisis depuis le printemps.
La dernière récupérée hier après-midi donc sur le secteur de la Savine, donc une motocross signalée, notamment repérée à l'aide du bruit, en raison du bruit, pardon, suivie à distance par les policiers de la division Nord, et interceptée au moment où la jeune fille, parce que c'est une jeune fille qui faisait du rodéo avec, franchit une barrière. À la vue des policiers, elle panique un petit peu, elle rate son démarrage, la moto tombe, et elle est interpellée par les effectifs. Donc on ne l'a pas chassée, on était à distance, on l'a repérée, on a attendu le moment fatal, celui où la moto est à l'arrêt, pour procéder à l'interpellation.
Depuis une loi de 2018, le rodéo urbain est un délit passible de 2 ans de prison ferme et de 30 000 euros d'amende. Pas de quoi mettre fin à la pratique, d'autant que ce n'est pas uniquement un jeu, ici dans les quartiers nord de Marseille.
Alors on arrive dans une cité emblématique des quartiers nord, la cité de la Castellane, où effectivement on a des phénomènes de rodéo pour 2 raisons. Volonté de montrer qu'ils sont maîtres du territoire et le défi à l'autorité, première chose. Et puis aussi, ces motos, elles servent aussi lorsqu'on arrive pour faire sauter les points stup, à récupérer très très rapidement sur le point stup l'argent ou le produit qui resterait.
Le fléau du trafic de drogue en toile de fond. Nathalie Lafont et d'autres se sentent abandonnés par les pouvoirs publics, d'où leurs initiatives. Cette mobilisation citoyenne ne surprend pas celle qui a été élue dans ces quartiers nord.
Moi, je dis toujours que finalement, ces territoires, ce sont des prisons à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on a mis des gens dans des endroits, on les a laissés dans des endroits, et on leur a dit, débrouillez-vous tout seul. Voilà, faites comme vous voulez, débrouillez-vous, subissez. Subissez, c'est possible, on s'élance. J'ai interpellé, j'interpelle tous les jours le préfet de police, je mets la pression sur la préfecture pour qu'on ait des moyens supplémentaires. Et à chaque fois, j'interpelle l'État parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens, et je l'ai encore fait il n'y a pas très longtemps, pour rappeler qu'il nous manque des policiers. Si on n'a pas ces policiers-là, malheureusement, on ne pourra pas faire.
Marseille n'est pas la seule ville en France où des habitants veulent aussi mettre l'État face à ses responsabilités. À cause de nuisances comme le rodéo urbain, une action collective en justice a été initiée en septembre à Lyon.
Alors, question téléspectateurs, nos politiques ne comprennent rien à notre société, qu'ils viennent habiter dans nos HLM. Sois-y, Kemener.
Non, mais c'est vrai qu'on peine à mesurer l'exaspération des habitants qui, Champigny-sur-Marne qui ont filmé. C'est les habitants qui ont filmé par la fenêtre cette attaque contre le commissariat. On mesure mal aussi l'exaspération, comme cette riveraine à Marseille, qui subit des rodéos sous ses fenêtres. Donc, effectivement, il y a là un enjeu qui est très important. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, quand il se déplace, qu'il est en banlieue parisienne et qu'il a fait cette fameuse phrase sur la racaille, il dit « Vous en avez marre de cette racaille ?» On va vous en débarrasser. À qui il parle ? Il parle aux habitants. Ça a déjà été repéré à l'époque que le problème, c'est les riverains, c'est les habitants qui subissent en premier lieu. Ils subissent ces nuisances, ils subissent aussi une discrimination parce qu'aujourd'hui, il y avait un article très intéressant qui citait une personne qui habite justement dans ce quartier à Champigny-sur-Marne et qui disait « Mais moi, sur mon CV, j'ose plus mettre mon adresse parce que je suis immédiatement stigmatisée. » On dit « Ah ben oui, mais c'est là où le commissariat... a été attaqué, où il avait déjà été attaqué en 2018, où ça n'arrête pas. Et donc, obligatoirement, il se retrouve renvoyé de ce côté-là. Et c'est là tout l'enjeu républicain, d'ailleurs, c'est de réussir à remettre les lois de la République en premier dans ces quartiers pour qu'il y ait un basculement et que les habitants qui veulent vivre sereinement puissent le faire.
Driss Aït Youssef, quand l'État est condamné parce qu'il ne fait pas cesser ses rodéos urbains, ça veut dire que l'État, au fond, dans sa tête, il dit « Bon, il y a des rodéos urbains, mais finalement, dans ces quartiers, on va les tolérer ?» Et alors, c'est ça qui est condamnable ?
Alors, la décision, elle est un tout petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que ce collectif a saisi, donc le tribunal administratif, après avoir saisi depuis 2012 régulièrement la mairie et la préfecture de police, hein, donc des Bouches-du-Rhône, qui a autorité sur la commune de Marseille. Saisi depuis 2012 à plusieurs reprises, sur des manquements répétés. Celui, effectivement, de faire cesser ces rodéos. À un moment donné, ils attaquent donc, la collectivité et donc l'État. Donc le tribunal administratif déboute la collectivité puisqu'elle n'a pas de... On est sur un registre très particulier à Marseille où comme à Paris, c'est la préfecture de police qui a cette responsabilité. Et donc l'État est condamné non pas parce qu'il n'a pas fait, mais parce qu'il n'a pas réussi à faire cesser, mais parce qu'il n'a pas mis les moyens. Donc on n'est pas sur une obligation de résultat, mais sur une obligation de moyens. Et en l'occurrence, ce qui a penché la balance pour la condamnation de l'État, c'est qu'entre 2012 et 2020, vous avez eu le bilan de la préfecture de police, donc des Bouches-du-Rhône, c'est une moto. Saisie de une moto. Et donc, le tribunal a considéré qu'effectivement, l'État n'avait pas mis suffisamment de moyens pour faire stopper ces nuisances qui nuisent effectivement à la tranquillité publique des riverains. Donc, on est vraiment sur un cas qui est très particulier. Dans le même temps, ça a été dit très justement dans le reportage, le préfet de police avait écrit, ou le ministre de l'Intérieur avait écrit en 2018, que compte tenu de cette nouvelle loi qui permet de réprimer effectivement les rodéos sauvages, qu'ils allaient engager des actions. Aucune action n'a été engagée sur ce secteur en particulier. Donc c'est la raison pour laquelle l'État a été très justement condamné sur le registre de la faute simple. Donc sa responsabilité a été engagée.
Ivan Trippenbach, la justice, non, l'ordre, l'autorité, c'est du domaine de la municipalité en général. Alors, sauf à Paris et à Marseille où c'est l'État là qui a la main. Mais sinon, ce sont les maires qui doivent faire régner l'ordre dans toutes les villes ?
Plutôt la tranquillité publique.
La tranquillité.
Le maintien de l'ordre, c'est plutôt de la compétence de l'État, ce qui pose la question de la répartition des compétences entre police nationale et police municipale et toutes les demandes auxquelles on assiste depuis plusieurs jours ou plusieurs mois même d'élus locaux, régionaux, demandant davantage d'effectifs à l'État pour mettre le ministre de l'Intérieur et le gouvernement face à leurs responsabilités.
Bien compris, la tranquillité publique, c'est la municipalité, mais l'ordre, c'est l'État.
Oui, tout à fait.
C'est compliqué par moments. Hein.
Oui, ça pose énormément de soucis. Et d'ailleurs, il y a toute une réflexion sur une meilleure coordination entre le national et le local. Par exemple, les polices municipales qui vont voir leurs prérogatives un petit peu élargies avec, par exemple, l'accès aux fichiers...
Volées.
Oui, voilà, exactement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être à d'autres fichiers, c'est en cours de réflexion. Mais il y a une coordination qui est très importante, effectivement, pour que les habitants puissent, en gros, avoir du bleu sur la voie public, comme on dit.
Parce que tout cela nourrit le sentiment, alors vous allez me dire si c'est un sentiment ou une impunité, un sentiment d'impunité par moment ?
En fait, ce qui est intéressant dans les rodéos urbains sauvages, c'est que c'est typiquement l'acte d'incivilité ou de délinquance, selon les cas, qui exaspère les habitants et qui est visible, qui marque le quotidien des Français. Et quand Jean Castex a fait sa déclaration de politique générale, il avait une expression pour le dire. Alors, il parlait de tag, mais c'est exactement le même cas de figure. Bon, le tag, c'est moins dangereux, bien sûr, moins bruyant, moins... contre la tranquillité publique des habitants, mais c'est visible, ça pourrit le quotidien et les gens s'en souviennent puisque c'est dans leur cadre de vie. quand Jean Castex est arrivé à Matignon, quand il a été choisi par Emmanuel Macron, c'était aussi pour lutter contre l'insécurité du quotidien, contre les incivilités. Emmanuel Macron a repris ce terme plusieurs fois, il a même été critiqué pour être un peu en deçà de la réalité. Mais en tout cas, Jean Castex et le gouvernement avaient vraiment cette priorité en tête. On peut se dire que 3 mois plus tard, le fait que le Premier ministre dise que l'insécurité est encore le point faible de notre pays, je le cite ce matin sur France Info, c'est un aveu d'échec et ça pose question pour la suite.
Bon, je dis d'ailleurs, est-ce que ces problèmes sont... Là, on était à Marseille. On peut dire qu'ils sont plus accentués à Marseille et en banlieue parisienne, ces problèmes, ou ils sont... On parle dans toute la France, on parlait de Lyon également.
C'est pratiquement maintenant dans tous les tissus urbains. Ce phénomène de rodéo qui agace terriblement, qui exaspère les Français au quotidien, il y en a à peu près partout. Alors on nous a expliqué après le confinement que c'était lié au déconfinement, voilà. La reconquête des territoires, c'est la bagarre entre bandes de dealers, c'est ce qu'expliquait Christophe Castaner en sortant du confinement. Le problème c'est que 3 mois plus tard, on nous redit un peu la même chose et les gens, à mon avis, ils écoutent assez peu, ils voient que les résultats ne sont pas là. D'autant plus que sur la question de la sécurité quotidienne, il faut bien se souvenir qu'au début du mandat, Gérard Collomb, qui fut le premier ministre de l'Intérieur sous ce quinquennat, a lancé la fameuse police de sécurité du quotidien. Je parle devant Driss qui connaît ça par cœur. Et le résultat, c'est que pour l'instant, c'est très... on ne voit pas trop le bénéfice pour l'instant de cette expérience qui est menée dans un certain nombre de
du lien avec les populations.
Un certain nombre de quartiers. C'est la fameuse recréation, sous un autre terme, de la police de proximité, naguère créée par Jean-Pierre Chevènement et Lionel Jospin, supprimée par Nicolas Sarkozy, et qui a commencé à être établie un peu sous François Hollande et surtout sous Emmanuel Macron, mais pas à l'échelle nationale. Non, ce qui est plus intéressant, c'est que petit à petit, on voit que finalement, cette police du quotidien, c'est la police municipale qui va, les policiers municipaux qui vont le devenir. Et il y a maintenant, il y a beaucoup moins de bagarres politiques. Longtemps, la police municipale, c'était presque une affaire, une guerre de religion entre la droite et la gauche. Les municipalités de droite avaient des polices municipales, avec des caméras partout. Dans les années 80, armées. 92, 90, c'était un énorme débat politique. Elles étaient même armées dans un certain nombre de villes. Asnières, Levallois ont été pionnières. Tout le monde leur tombait sur les maires de l'époque. Résultat des courses, aujourd'hui, ça fait pratiquement plus débat dans les villes de droite et même dans les villes de gauche, à l'exception des municipalités communistes, puisque si on prend l'exemple de Champigny-sur-Marne, qui est une ancienne ville communiste, il n'y avait pas de caméra, il n'y a pas de police municipale. Et là, il y a un vrai problème. Parce que je crois qu'effectivement, il faut une police municipale, il faut une police nationale, il faut qu'elle travaille ensemble, il faut qu'elle soit équipée de très bons niveaux dans les deux cas. Alors on voit pour les policiers municipaux, les maires qui sont sous la pression des élus se rendent bien compte qu'ils doivent investir. Police nationale, c'est souvent un peu compliqué. Mais par exemple, à Grenoble, le maire de Grenoble est allé à une discussion avec le ministre de l'Intérieur parce que le ministre de l'Intérieur reprochait pour une ville de la taille de Grenoble de ne pas être suffisamment équipée, notamment en termes de police municipale, de caméras. Et là, il y a eu discussion. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un élément de comparaison entre les villes. Et c'est très important.
Driss Aït-Youssef, quand le gouvernement dit derrière toutes ces violences, au fond, il y a toujours un trafic de drogue. Il y a le ressort de toute cette violence. C'est le trafic de drogue. On voit que même pour les motos, ces motos, en fait, elles ont une utilité pour aller récupérer l'argent en cas de descente de police.
Oui, c'est un peu ce qui sous-tend effectivement à ces actes de délinquance, c'est-à-dire qu'à la fois les motos, elles vont servir pour des guetteurs, elles vont servir à faire des diversions, elles vont servir effectivement à évacuer le cannabis ou l'argent du cannabis, et puis elles vont aussi servir à des vols à la portière. Il y a de la délinquance d'une manière générale. Et donc la difficulté justement pour ces policiers, c'est de pouvoir opérer. Après tout le débat aujourd'hui, et j'entends bien moi le débat du moment qui est de dire, ayons une police municipale, il faut que toutes les villes puissent se doter d'une police municipale, enfin, c'est très compliqué d'avoir ce débat si on ne fait pas une analyse ville par ville. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement avoir une police municipale à Levallois, compte tenu de la configuration un peu sociale de la commune. Ce n'est pas la même chose à Champigny, ce n'est pas la même chose à Saint-Denis, où vous avez aussi besoin d'acteurs, j'ai envie de dire, des acteurs sociaux ou des acteurs qui vont être plutôt sur de la prévention. Et le problème, c'est qu'on fait croire beaucoup à des maires de communes qui ont progressivement remplacé les agents de médiation, ceux qui vont devant les collèges, qui vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire, qui vont parler, notamment quand il y a des conflits de voisinage, remplacés progressivement par des policiers municipaux. La question de la proximité, en tout cas de la relation entre la puissance publique, entre l'État et les habitants, les responsables associatifs, eh ben, ce n'est pas exclusif de l'État. Mais comment on le fait ? La police de sécurité du quotidien, selon Gérard Collomb, c'était d'abord mettre des policiers, mettre des moyens, et puis ensuite on définit les objectifs. Non, il aurait fallu faire le contraire. Comment on travaille avec les collectivités locaux ? Quel objectif on se fixe ? Et ensuite, on y met des moyens. C'est ce qu'ils ont fait à Toulouse la semaine dernière, où Jean Castex s'est rendu à Toulouse pour ce qu'on appelle les premiers contrats de sécurité intégrés. Il y a une loi l'année prochaine qui va déterminer ce qu'on va mettre dedans et quels moyens on met. La commune met des moyens, l'État met des moyens. L'État y mettra essentiellement quelques moyens financiers et des moyens humains, et la commune va s'engager, c'est le cas par exemple à Toulouse, 111 policiers municipaux, 100 policiers municipaux, pardon, et 100 caméras de vidéosurveillance. Probablement lutter contre la délinquance, parce que quand vous regardez à Toulouse le quartier des Isards, il y a des règlements de compte un peu en cascade et c'est extrêmement compliqué. Mais est-ce que ça permettra de régler la situation ? À la vérité, je ne sais pas. On verra ce que dira, on verra le résultat de tout ça. Mais l'objectif, à un moment donné, c'est sur une politique qui vise à la fois à faire de la prévention. Le maire, il est là pour faire exclusivement de la prévention. Dans le Code général des collectivités territoriales, le maire n'est pas là pour faire de la répression. La répression, c'est l'affaire de l'État. Et donc, si effectivement, on arrive à articuler ces deux au travers de ce qu'on appelle un contrat local de sécurité, on arrive à faire travailler la justice, la PJJ, tout le monde ensemble sur les questions liées à la parentalité, je crois que c'est le Premier ministre qui le disait, eh ben, je pense qu'on peut obtenir des résultats. Mais sortir du tout répressif, ça me semble indispensable.
Alors face à ces violences, faut-il repenser notre système judiciaire ? Un homme a aujourd'hui pour mission de réfléchir à la question. Il s'agit du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Mais est-il vraiment en capacité d'agir ? En quelques mois, l'ancienne star du barreau est devenue la cible favorite des magistrats. Sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet.
Le voilà, le coup d'éclat politique de ce début d'été. La star du barreau, Éric Dupond-Moretti, devient garde des Sceaux. Ses premiers mots annoncent déjà bien des combats à venir.
Je ne fais de guerre à personne. Je veux avec vous garder le meilleur et changer le pire.
Bien connu pour ses coups de gueule médiatiques, l'ancien avocat fait ses premiers pas, un peu hésitant, dans l'arène politique.
Je vous en prie, C'est déjà compliqué pour moi, c'est une première, mais est-ce qu'on décompte les interruptions ?
Non, on ne décompte pas.
Ah ben voilà.
On souffre en silence.
Il obtient 8% de budget en plus pour son ministère, mais rien n'y fait. Le ministre de la Justice cristallise les tensions dans le monde judiciaire. Fait rare, le procureur de la République s'inquiète dans la presse pour l'indépendance de la justice. Les syndicats de magistrats manifestent eux aussi leurs craintes et accusent le ministre de conflit d'intérêts. Tout commence une semaine avant la nomination d'Éric Dupond-Moretti. L'avocat porte plainte contre le parquet national financier qui a écouté ses conversations téléphoniques dans le cadre de l'affaire Paul Bismuth impliquant Nicolas Sarkozy. Une semaine plus tard, le ministre, fraîchement nommé, retire sa plainte, mais l'enquête contre le parquet financier est relancée.
En arrivant comme ministre de la Justice, il décide lui-même de saisir l'inspection pour faire une enquête sur ces mêmes magistrats dans cette même affaire. Et par la suite, et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il est garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, c'est lui seul qui peut décider des sanctions disciplinaires contre les magistrats du parquet. Donc si cette affaire vient à son terme, ce sera sa décision de savoir s'il sanctionne ou non ces magistrats contre lesquels il a déposé plainte comme particulier précédemment.
Pour les syndicats de magistrats, l'ancien avocat ne peut être à la fois juge et parti. Le ministre refuse catégoriquement l'accusation. Le dialogue semble rompu.
Chacun peut s'exprimer dans notre belle démocratie, vous avez bien compris. Ils disent que c'est un conflit d'intérêts. Moi, je dis que ça n'est pas un conflit d'intérêts et que le garde des Sceaux a un certain nombre de responsabilités. Et que s'il apprend que des choses déontologiques n'ont pas été faites, comme que des errements déontologiques ont été commis, eh bien, il lui appartient de prendre les décisions qui s'imposent.
Mais le fait que le ministre s'intéresse de très près au parquet national financier ne passe pas. Trois plaintes ont été déposées pour prise illégale d'intérêt.
Le parquet national financier est probablement
le seul parquet qui fonctionne bien aujourd'hui en France parce qu'il a montré son indépendance, en tout cas son autonomie, en s'attaquant à des personnalités politiques de premier plan. Et lorsque, à la une de Paris Match, M. Dupond-Moretti s'affiche avec Thierry Herzog, qui va être jugé avec M. Sarkozy pour des faits de corruption, qu'est-ce qu'il vient dire aux procureurs qui sont sous son autorité hiérarchique? Il vient dire « Attention, vous allez requérir contre un de mes amis ». Et ceci perturbe bien évidemment la visibilité. On ne peut pas reprocher à M. Dupond-Moretti d'avoir les amis qu'il a, mais simplement… Lorsqu'il envoie un message, son message aujourd'hui est un message politique et c'est ça qu'il doit comprendre.
Emmanuel Macron a-t-il fait une erreur de casting en nommant Éric Dupond-Moretti à la chancellerie? Pour François Hollande, c'est plutôt une erreur politique.
Vous avez pu le noter, je n'avais pas nommé Dupond-Moretti comme garde des Sceaux quand j'étais président.
Vous ne l'auriez pas fait.
Si je ne l'ai pas fait, c'est que je n'y avais même pas songé.
Éric Dupond-Moretti devait s'entretenir avec les syndicats de magistrats demain. Ils ont refusé de rencontrer leur ministre.
Alors, question de téléspectateurs. Dupond-Moretti me paraît être un excellent candidat pour une démission façon Hulot dans combien de temps? Question de Raymond dans la Somme, Soizic Kemener.
On va peut-être décevoir un petit peu Raymond. Moi, je ne pense pas du tout. On n'est pas du tout dans la même situation qu'avec Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, il était là, il espérait faire, il espérait remporter des arbitrages. Il les a perdus, il l'a suffisamment dit et répété. On sait pourquoi il est parti. Les lobbies, il a perdu tous les arbitrages qu'il espérait défendre, la politique des petits pas. Donc il est parti. Moretti, il a une première victoire éclatante, l'augmentation du budget de la justice. Évidemment, ça se passe très mal.
Plus
8%. On sait qu'un ministre est en difficulté quand il n'est pas soutenu. Il est soutenu, Éric Dupond-Moretti. Il n'y a pas un mot qui vient de l'Élysée pour s'attaquer à Éric Dupond-Moretti. Et bien au contraire, il occupe l'espace. Il a une voix très reconnaissable. On l'écoute immédiatement. Il est là, il est présent. Le quinquennat a souffert de ne pas avoir de personnalité politique très présente, existante sous Édouard Philippe. Et donc, Éric Dupond-Moretti, il est là pour ça, il est là pour faire de la politique, il est là pour porter le fer. On l'a vu lors de l'émission, c'était très intéressant, c'était l'émission de France 2 consacrée à Jean Castex. Qu'est-ce qu'on a retenu de cette émission? Vous avez la parole sur France 2. C'est le moment où Éric Dupond-Moretti prend la parole en expliquant que le Premier ministre ne peut pas s'exprimer après une dame qui a perdu son fils dans des circonstances épouvantables. On retient ça parce que Éric Dupond-Moretti imprime. Donc il est là pour faire de la politique et il servira pour 2022. Il sera présent dans le débat public et il portera le fer contre les adversaires d'Emmanuel Macron.
Bruno Jeudy, on a cru comprendre quand même cet été qu'il avait fait une faute en parlant de sentiment d'ensauvagement et que finalement c'était la ligne Darmanin qui avait gagné, qui était l'insuccès. Sécurité n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Et d'ailleurs, on avait vu ce sondage, hein, 68% des Français disent se sentir en insécurité. Sondage Odoxa, juillet 2020, qui donnait raison à la ligne Darmanin et tort à la ligne Dupond-Moretti.
Oui, la bataille de l'ensauvagement, il l'a perdue. Il l'a perdue, j'allais dire, presque parce qu'il était un peu débutant. Il a parlé de sentiment d'insécurité dans un gouvernement et avec un président qui s'est fixé comme ligne de durcir la ligne sur la question de sécurité. Donc là, il a perdu le point. Il a mal ajusté parce qu'il sort du barreau. Il commence une carrière politique, mais il apprend vite. Moi, je pense qu'il a créé un espoir quand même. On voit que l'opinion est intriguée par ce ministre de la Justice, qui évidemment a une très forte notoriété. Il a les sous, Soizic vient de le dire, hein, plus 8%, c'est quand même énorme. Il a une vision. Alors, on a compris que sa vision, réformer l'École nationale de la magistrature, bousculer l'organisation de la justice, ce ne sera pas pour ce mandat-là. Mais il a une mission qui est de traiter la justice au quotidien en recrutant des magistrats pour traiter justement les petits délits. Ça, c'est la feuille de route de Jean Castex. Il lui reste ça à faire. À mon avis, il ne se passera pas grand-chose, si je veux être franc avec vous, d'ici 18 mois, parce que la justice, c'est des prises de de position, des décisions, et c'est long à se mettre en place. Il doit quand même, avec ses 8%, montrer que l'argent arrive dans la machine et sur le terrain. Donc ça, c'est quand même son challenge. Mais je suis d'accord avec Soizic, il est surtout là pour 2022. Ça va être un formidable sniper pour Emmanuel Macron, pour sa campagne électorale présidentielle.
Parce qu'il va nous lâcher des petites phrases de ténor du barreau dans le secret.
Il suffit de regarder. À intervalles réguliers, il cogne Marine Le Pen, il cogne la droite, avec la précision d'un ancien ténor du barreau, et ça fait souvent mal.
Driss Ait Youssef, c'est vrai qu'on parlait du sentiment d'impunité, par moments, que les malfrats, finalement, on les relâche, hein, c'est la justice est laxiste, et en même temps, c'est vrai qu'on a Éric Dupond-Moretti qui dit « mettre un primo délinquant en prison, ça ne résout rien ».
Oui, parce qu'à la fois, il a exercé.
D'accord avec les deux, quoi.
Il a à la fois exercé et il connaît parfaitement bien la situation de la justice judiciaire et de l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire que la justice judiciaire, il est en train d'en faire d'une certaine manière un peu une guerre dans sa relation qu'il peut avoir avec un certain nombre de magistrats, pas avec tous. D'ailleurs, lui-même, il le dit. La nécessité de mettre des greffiers, la nécessité de mettre des juges, la nécessité de mettre des moyens, ça, il l'a vécu au quotidien. Ensuite, l'administration pénitentiaire, quand il dit ça ne sert à rien de mettre un primo délinquant, c'est qu'il voit bien que cette surpopulation carcérale. Il voit bien que la France est régulièrement condamnée et il en fait régulièrement état pendant ses plaidoiries de la condamnation ou des condamnations de la France sur l'état des prisons françaises. Il voit bien que quand vous êtes sur une surpopulation carcérale à 120-130%, lorsque vous êtes sur un taux de récidive à 50%, en 60%, vous envoyez un primo délinquant, vous êtes à peu près sûr qu'il sortira d'une certaine manière radicalisé ou qu'il va évoluer dans l'échelle de la délinquance et il voit que ça ne sert à rien.
D'autant que quel est le profil de ces primo-délinquants type ces 40 personnes qui ont attaqué le commissariat de Champigny-sur-Marne samedi soir?
C'est classiquement le type que vous allez appréhender qui, à 25, 26, 27 ans, va avoir une quarantaine de mentions dans son casier judiciaire et qui va, à un moment donné, poser un problème pour l'ordre et la sécurité publique. Sauf que...
Il a quel âge en moyenne? Non, mais...
27, 28 ans, 30 ans, je l'ai expliqué au début de l'émission. Vous avez aujourd'hui, on rattrape beaucoup des mineurs. On dit souvent, il y a des mineurs. À Saint-Ouen, règlement de compte, un mineur a été tué par balle. Donc on a de plus en plus effectivement ces jeunes qui se retrouvent des clients. 45% aujourd'hui de ceux qui commettent des crimes et délits sont des mineurs. Donc c'est flat par rapport à l'année dernière, mais ils sont quand même assez présents. Donc il sait que effectivement quand la prison n'est pas en capacité d'eux, c'est qu'elle va créer justement, elle va créer de la délinquance en plus. Donc il le sait, il le maîtrise bien.
Après, mais c'est pas compliqué à expliquer à l'opinion que mettre des primo délinquants en prison, ça ne sert à rien.
Et c'est pour ça qu'il avait perdu, l'a dit très justement Bruno Jeudy, lorsqu'il, lui, ne parle pas d'un ensauvagement de la société, mais il a compris qu'il n'était pas dans une cour d'assises à essayer de convaincre un jury, mais qu'il faisait de la politique et qu'il y avait la bataille de l'opinion publique, la bataille des réseaux sociaux et la bataille, à un moment donné, politique, qui ne pouvait pas l'emporter face à lui, la manière qu'il a, la vision qu'il a de la vie, la vision qu'il a de la prison et la vision qu'il a d'une manière générale de la justice. Là où je pour terminer, c'est
Emmanuel
que
Macron
le sentiment...
Emmanuel Macron l'a quand même rappelé à l'ordre sur cette question de l'ensauvagement, où il n'a pas aimé que ses deux ministres se querellent mais publiquement.
C'est là, effectivement, et pour terminer, on a le sentiment qu'il est en définitive d'accord avec l'institution, en tout cas avec les magistrats, les professionnels, sur la nécessité de mettre des moyens dans la justice, parce que ça ne peut pas fonctionner. Mais il y a un tel rattrapage, comme le dit Bruno Jeudy, il y a un tel rattrapage sur des années de retard, la construction de places de prison, le recrutement de greffiers pour que cette justice avance beaucoup plus vite que, effectivement, d'ici la fin du quinquennat, on n'aura pas réglé le problème, ça c'est certain.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Quelles sanctions risquent les jeunes qui ont attaqué le commissariat de Champigny-sur-Marne, se demande Jacqueline dans les Pyrénées-Atlantiques. Driss Ait Youssef,
mais très compliqué, parce que ça dépend si c'est un primo délinquant, est-ce qu'il a des inscriptions sur son casier judiciaire, quel âge il a, quelle est sa situation, est-ce qu'il a une vie de famille, est-ce qu'il travaille. Quelqu'un qui, par exemple, travaille et qui a déconné, c'est la première fois de sa vie, il n'ira pas en prison.
Minimum, maximum, c'est quoi?
Non, vous pouvez... Enfin, c'est très compliqué à dire. Vous pouvez aller de 6 mois à 2 ans de prison. Il n'y a pas de blessé. Vous avez des dégradations. C'est quand même assez spectaculaire, mais le juge, il va se démarquer de tout ça. Spectaculaire, mais il n'y a pas de policier blessé, il n'y a que des dégradations.
Et en espérant que la peine soit exécutée.
Voilà. Priorité, toujours priorité, mais je constate qu'il y a des priorités qui peuvent toujours attendre. Ivan Trippenbach, on a l'impression que Rien ne bouge, quoi, rien ne change.
Oui, la sécurité a toujours été une priorité du gouvernement. Hein. Là, on est dans un défaut de concordance des temps entre les moyens qui sont mis, on a parlé des recrutements qui prennent beaucoup de temps, donc 2500 greffiers magistrats d'ici à l'année prochaine. On a 10 000 recrutements de policiers et de gendarmes en cours qui sont toujours en cours de création, enfin, des créations de postes en cours de création. Donc tout ça prend du temps. Pour qu'il y ait des résultats sur le terrain, ce ne sera pas avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, entre le gouvernement qui affiche la sécurité comme priorité, qui est dans une bataille électorale pour 2022 déjà, qui se trouve face à Marine Le Pen et la droite dans cette élection, c'est un dilemme entre les moyens sur les politiques publiques à faire évoluer et dans le bon sens, même si ce n'est pas forcément visible et même si les gains ne sont pas forcément immédiats, et puis... la communication, les signaux dans le verbe de Gérald Darmanin, par exemple, et dans Éric Dupond-Moretti, dans le discours d'Éric Dupond-Moretti aussi, qui a gagné deux batailles. On a parlé des moyens, mais aussi la bataille des médias. On parle beaucoup de la justice dans les médias, ce qui n'était pas le cas avant sa nomination. Et donc ça, c'est déjà une victoire de sa part.
Le risque est que les riverains finissent par eux-mêmes faire la police, Soisy Kemener.
Oui, d'ailleurs, on a consacré tout un dossier de Marianne Assa à la justice citoyenne et l'inquiétude, justement, que ça pouvait susciter. On a vu, souvenez-vous, cet été, alors c'était pas les citoyens qui rendaient la justice, mais ils commençaient à manifester à Palavas-les-Flots. On a beaucoup parlé de ces manifestations-là. Et effectivement, c'est le risque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de réponse de l'État, ou en tout cas qu'elle n'apparaît pas, parce que moi, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de réponse de l'État, mais il y a une réponse, soit elle est diffuse, soit elle prend beaucoup de temps. Alors, c'est un des chevaux de bataille d'Éric Dupond-Moretti. Lui, il dit les peines elles sont appliquées et ça se passe. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps et donc on perd le sens dans le temps. Donc effectivement, le risque, c'est alors des milices, de l'auto-organisation, etc. Et c'est pour ça qu'on est vraiment à un moment où il faut que l'État reprenne sa place, que les valeurs de la République se réinstallent, que la loi de la République se fasse entendre. Alors c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'affichage, mais ça compte aussi un petit peu, parce qu'effectivement, c'est une façon de dire aussi aux riverains, on est là, on vient, les politiques viennent, ne faites pas ça tout seul, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir des situations dramatiques. On n'en est pas encore là, mais certains commencent à se poser la question.
Qu'on la souhaite ou non, l'aggravation de la réponse pénale est-elle efficace ? Question de Gérard à Paris, Driss Aït Youssef.
L'aggravation de la réponse pénale.
Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça dissuade ? Est-ce que ça permet de faire réduire la violence et les actes de violence ?
Ce qui est important, c'est lorsque vous effectuez votre peine, c'est qu'au bout de votre peine, vous ayez un projet de réinsertion. En fait, ce qui compte, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez un service qui est le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dont il faudrait muscler les effectifs, parce que ça permet, à un moment donné, de lutter contre ce qu'on appelle la récidive. Une bonne prévention, c'est aussi une bonne répression. Lorsque vous réprimez correctement un fait, lorsque vous expliquez, lorsque vous faites prendre conscience au détenu qu'il a commis un crime ou un délit, qu'il est là pour le réparer, mais que la vie, elle continue ensuite et qu'il faut qu'il se réinsère en respectant la vie en communauté, les règles, les lois, etc., vous avez réussi votre peine. Il ne suffit pas de dire on a gravement sanctionné et on a réglé le problème. Pas du tout. Et c'est bien ce qui pose problème quelquefois, c'est qu'on a toujours le sentiment qu'en étant extrêmement sévère, on a réglé le problème. Non, on ne l'a pas réglé. C'est-à-dire qu'on l'a mis de côté avec l'état de nos prisons, on a mis de côté un problème qu'on se récupérera dans quelques années.
Macron avait-il une réelle politique sécuritaire dans son programme de 2017 ? Anne, dans le Pas-de-Calais, Bruno Jeudy.
Incontestablement, c'est un sujet sur lequel il avait assez peu travaillé, à tel point que pendant la campagne présidentielle, où il a finalement aggloméré un certain nombre de personnalités qui l'ont rejoint petit à petit, au fur et à mesure que ses chances augmentaient d'ailleurs, un moment pendant la campagne, il faut un représentant pour aller à la rencontre de tout ce qui touche les forces de sécurité, syndicats de policiers, donc chaque candidat. Et là, à ce moment-là, il n'y avait personne, et c'est Christophe Castaner qui s'y est collé à l'époque, donc c'est pour vous dire qu'à ce moment-là, il y avait peu de personnes qui étaient vraiment spécialisées, et il ne l'était pas à l'époque. Il s'est emparé du dossier à ce moment-là, et c'est pour ça qu'ensuite, il a fait des pieds et des mains pour devenir ministre de l'Intérieur. Donc, c'est tout le problème d'un domaine où... parce qu'au fond, Emmanuel Macron, son projet, c'était l'émancipation par la... j'allais dire... par
la réussite
individuelle et par une économie qui repartirait. Ça, il avait beaucoup travaillé sur cette question-là, imaginant que ça allait faire baisser derrière les questions, justement, de sécurité. faire baisser la pression sur la sécurité, le nombre de délinquants et tout ça. Donc c'était un petit peu une démarche qui ressemblait un peu
à celle de Lionel Jospin.
Celle de Lionel Jospin, absolument, à la fin des années 2000.
Darmanin est-il apprécié par les policiers et leurs syndicats ? Ivan Trippenbach.
Oui, oui, pour le moment, il est très apprécié. Il est aussi très attendu parce que Darmanin, on l'a dit, multiplie les déclarations, les déplacements. Demain, les syndicats de police vont lui demander un certain nombre de mesures budgétaires, de moyens ajoutés et d'amélioration de leurs conditions de travail, d'amélioration sociale aussi. Donc, il est très attendu par les policiers. Ça ne risque pas de durer.
Oui, comme Castaner. C'était la même chose pour Christophe Castaner lorsqu'il est arrivé au ministère de l'Intérieur.
Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. C'est dans l'air est rediffusé ce soir à 23h10. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible à tout instant gratuitement sur toutes les plateformes type Deezer ou Apple. Merci de votre fidélité. Bien sûr, vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.